Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Jacques pour le magazine du Tarn sur CFM Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à la demi pour un magazine où il sera question de la Biennale des Verriers 11e édition ce week-end à Carmaux, un événement qui a à l'honneur cette semaine sur notre antenne où nous faisons connaissance avec quelques-uns des artistes et artisans qui sont invités à cette Biennale 2023. Aujourd'hui, c'est Marie Flambard que nous découvrons. Elle est souffleuse de verre dans le Grand Est de la France et elle est à la fois parurière, sculptrice et verrière aussi. On la retrouve dans le coup de projecteur à suivre dans une vingtaine de minutes. Et puis comme habituellement les jeudis dans ce magazine, on parle de jardinage et au-delà de ça de biodiversité et d'environnement avec Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour, c'est dans Plantes et Histoire de Plantes, où il sera question du compost, du compostage. Vous avez peut-être reçu un courrier récemment de Trifil vous annonçant qu'à partir du 1er janvier 2024, le compostage sera plus que conseillé auprès de tous les foyers qui seront invités à composter leurs déchets ménagers notamment. Donc l'occasion pour nous de revenir sur les attraits et les moyens pour mettre en place un compost chez soi, que l'on habite dans une maison de ville, dans un appartement, dans un studio. Il y a des possibilités comme on va le voir avec Rémi Kulik. Après la musique, on écoute Achaf Avidan, 900 Days.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
excellente histoire de plantes sur CFM Radio en compagnie, comme toujours, hein, de Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vaours. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors au menu aujourd'hui de cette chronique, c'est pratiquement une chronique de service public parce qu'on va se servir d'un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, mais pour informer les gens notamment sur une loi qui passe en vigueur à partir du 1er janvier 2024 pour laquelle sera imposé à chaque foyer en France d'avoir un composteur individuel ou collectif. On a vu la gestion des déchets évoluer ces dernières années avec le plastique qui passe maintenant dans, on va dire, les bacs jaunes, les bacs de recyclage. La prochaine étape, concerne les déchets organiques. Donc, que faire de ces déchets-là pour ceux qui ne sont pas encore habitués? Une des propositions est ce fameux composteur qu'on définit comment déjà pour commencer, Rémi?
Il y en aura plusieurs types de compost, mais de base, c'est une matière qu'on va pouvoir utiliser dans le jardin pour faire pousser ses plantes, qui est issue de la décomposition de toutes les matières organiques qu'on va produire, que ce soit à la cuisine, que ce soit au jardin, que ce soit dans les toilettes. Voilà, tout ce qui est matière organique, ça se décompose et ça produit du compost qu'on peut utiliser au jardin.
Donc avant, par exemple, pour prendre le cas d'un foyer, les déchets des plissures de feuillets de légumes, on mettait ça dans la poubelle noire qui était balancée. Mais là, à partir du 1er janvier 2024, ce sera interdit de le faire sous peine d'amende. Et apparemment, les amendes seront un peu salées. Donc on invite tout le monde à avoir un composteur chez soi. Donc aux auditeurs qui sont à notre écoute, renseignez-vous auprès de chez vous. Il y aura des aides diverses et variées pour vous permettre d'avoir un composteur individuel. Il y a différentes manières de composter, parce que si on a un appartement, on a un balcon, on a un terrain, on a un potager, jardin, forêt, il y a différentes manières de recycler ces déchets organiques. Là, on essaie de survoler rapidement les différents types de compostage qu'on peut faire.
Alors, je dirais le plus classique, celui que tout le monde voit en premier, c'est faire du compost en tas. Alors, en tas ou dans un bac, mais on va accumuler toutes les matières organiques qui vont se décomposer. Et dans ce type de compost-là, je dirais, il y en a deux globalement. Celui qu'on appelle compostage à chaud et celui qu'on appelle compostage à froid. Compostage à froid, c'est celui qu'on fait sans faire exprès. Et celui qu'on fait à chaud, on le fait volontairement. À froid, ça veut dire, on va avoir soit, alors moi perso, j'ai pas de bac, j'ai un tas au fond du jardin, j'ai un seau dans la cuisine que je vais vider sur un tas dans le jardin. Et quand on va accumuler comme ça, petit à petit, la matière organique, on va finir par avoir un gros tas au bout de quelques semaines, quelques mois. Tout ce qui est en haut du tas, c'est pas encore décomposé. Et tout ce qui est au fond, ça a fini par se décomposer tout doucement. Et il n'y a pas de montée en température, ça c'est le compostage à froid le plus facile à faire. Si on veut faire un compostage à chaud, on va rassembler différentes matières organiques. L'idée c'est vraiment d'avoir plusieurs matières différentes. Ça peut être du déchet de cuisine, du déchet vert, de la tonte, des feuilles mortes, de la paille, de tout même ce qui est déchet de désherbage, tout ce qui est matière organique. Alors ça on pourra le voir, qu'est-ce qu'on met dans le compost. Mais oui, même le carton, c'est organique. Le carton, le papier, tout ce qui est des essuie-tout, tout ça, ça va finir par se décomposer. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? S'il y a un brasseur par l'un de chez vous, il y a tout ce qui est la drèche, voilà, oui. Les vignerons, quand ils vont presser le raisin, enfin, toutes ces matières-là, on va mélanger toutes ces matières et on va en faire un gros tas. Alors, gros, pas forcément trop énorme, mais assez gros pour que ça monte en température. Donc, la taille, ça va être, un tas qui va faire 1 mètre, 1 mètre 50 de haut sur 1 mètre, 1 mètre 50 de large en tous sens. Et donc, on va le monter en une seule fois, ce tas, en faisant des couches de ces différents ingrédients, entre guillemets. Si c'est trop sec, on va humidifier un petit peu. Si c'est pas trop sec, c'est pas la peine. L'idée, c'est que ce soit, qu'il y ait le même taux d'humidité qu'il y a dans une éponge après l'avoir un tout petit peu pressé. Pas complètement non plus. Il faut que ce soit assez humide. Et une fois qu'on a monté ce tas avec ces différents ingrédients assez humides, on va le couvrir avec une bâche. Ce serait pas obligé de le faire, mais de toute façon, une fois que le tas sera monté, au bout de quelques heures et pendant quelques semaines, ça va monter en température. On va le couvrir pour plusieurs raisons. Déjà, si c'est pas couvert, s'il pleut, ça peut être trop mouillé. S'il fait chaud, ça peut trop sécher. Si on le couvre pas, il y a beaucoup de graines qui volent dans l'air si on fait ça au jardin. Et on va se retrouver avec un compost avec plein de graines de pissenlit, d'herbe, quelle qu'elle soit. Donc, on va couvrir pour ça. L'idéal, c'est au bout de quelques semaines, allez, je dirais un mois et demi, de retourner ce tas. Une fois qu'il a fini sa montée en température, c'est surtout le cœur du tas qui a monté en température. Donc, on va retourner le tas. C'est-à-dire, on va prendre tout ce qui est en surface, on va refaire un tas à côté. Tout ce qui était au cœur du tas, on va finir par le mettre par-dessus le nouveau tas. Et ça va remonter en température. Quand on retourne le tas, on peut en profiter pour regarder l'humidité. Si ça a séché un petit peu, on rehumidifie quand on remonte le tas. ça remonte en température, et là, au bout d'un mois, un mois et demi, donc au total, au bout de 2 à 3 mois, on va avoir un compost qui est idéal. Et pas oublier de, une fois qu'il est bien, qu'il est prêt, toujours le garder couvert pour pas qu'il sèche, pour pas qu'il soit lessivé par la pluie. Et là, on a un compost qui est vraiment très très bien pour le jardin.
Donc ça, c'est à chaud, mais en tas, après avoir vu à froid, mais en tas. On parle du compostage en surface qui plaît un peu moins aux gens parce qu'ils se disent « Ah, c'est un peu moins esthétique, j'en aurais plein les bassins quand je vais me balader dans mon jardin forêt. »
Alors, il y a moyen de faire autrement. Après, l'idée, c'est si on visualise le jardin, qu'on va essayer de garder, jamais avoir la terre à nu, de garder paillée en continu. Quand on va avoir tout ce qui est déchets de jardinage, et on taille une tige de plante, on coupe un pied de tomate, on le met au sol, on peut même le mettre dans les allées, comme ça on va le piétiner, ça va se casser, se fragmenter en plein de petits morceaux, ça fait de la matière organique, ça va, c'est pas trop moche. Par contre, le seau de déchets de cuisine, d'épluchures, si on met ça dans le jardin, effectivement c'est pas joli. Par contre, si on a un jardin qui est paillé, on écarte le paillage sur une zone, on met ça en dessous, on remet le paillage par-dessus, et ça ne se voit pas. Et ça va avoir un intérêt énorme. Alors on peut revenir un peu en arrière sur les autres types de compost pour voir un peu les intérêts. Quand on fait un compostage en tas, à chaud ou à froid, on va avoir cette matière-là, ce compost très très noir. Et en apportant ça régulièrement au jardin, on va faire monter le taux de matière organique de notre sol, et on va avoir une terre qui sera de plus en plus fertile. Non seulement l'année où on l'utilise, mais sur le long terme, on va avoir une terre de plus en plus riche en matière organique, c'est très intéressant. L'autre intérêt, ça va être pour le compostage de surface, le fait d'apporter de la matière organique fraîche sur le sol, ça va pas forcément faire monter la matière organique comme pour le compostage en tas. Par contre, la vie du sol, elle est très active dans le compostage en tas, mais c'est dans le tas qu'elle est active. Une fois que le compost est fini, toutes les formes de vie différentes qui sont passées les unes après les autres pour faire ce compost, ben là, c'est au niveau de la surface de la terre de jardin qu'elle va se faire. Compostage de surface, on va avoir tous les arthropodes, tous les vers, tous les champignons, toutes les bactéries qui vont être mobilisées sur le sol pour décomposer cette matière organique, et ça va booster vraiment la vie du sol. Donc, très, très intéressant. Moi, je dirais, imaginons qu'on a un jardin avec une terre assez pauvre en matière organique. On va d'abord faire du compostage en tas le plus possible pour faire monter le taux de matière organique. Et une fois qu'on a une terre très noire, très sombre, très fertile, là, le compostage en tas, il est moins nécessaire et on va passer plutôt au compostage de surface. Et le compostage en tas, celui-là, on va le garder juste pas parce qu'on a besoin de produire du compost, mais parce qu'on a besoin de faire quelque chose de nos déchets. Et si on en a trop pour le mettre en surface, eh bien, on fait un tas dans un coin, ça se décompose. Il y a des pertes dans le sol, dans l'air. Un tas de compost qu'on va faire de 1,50 m de haut, une fois que ça finisse de se décomposer, il va redescendre à 1 mètre de haut. Donc, il y a une perte, mais ça va produire de la matière organique qu'on va pouvoir ensuite étaler dans le jardin.
Une troisième ou quatrième option peut un peu plus peut-être intéresser des personnes qui n'ont pas énormément de place en extérieur, qui peuvent peut-être vivre en appartement, mais qui ont aussi peut-être bien souvent des plantes d'intérieur qui ont besoin aussi d'être nourries par ce compost-là très riche donc en matière organique. C'est cette fois-ci un compostage plutôt en bac avec des lombricompost.
Avec des vers dedans, le lombricompost, ouais. Alors c'est une autre forme qui va être très intéressante, on produit un compost très très riche, on produit du jus de lombricompost parce que les vers, la matière organique fraîche, ça vit tout ça, ça produit des jus, donc les jus sont très intéressants pour les plantes. Contrairement aux purins ou aux urines qu'on peut utiliser aussi, il n'y a aucune odeur là-dedans, c'est très riche, très fertilisant, mais ça ne sent pas, donc c'est génial pour les plantes d'intérieur. Par contre, un des inconvénients, si ce n'est peut-être le seul inconvénient, c'est que dans ce compost-là, on ne pourra pas tout y mettre. Là, c'est entre le compostage et l'animal de compagnie. On a un bac avec des vers dedans. Moi, je le dis souvent en rigolant, mais en vrai, quand c'est actif, quand les vers sont en train de manger, on ouvre discrètement le bac, on met l'oreille dessus, on les entend en train de manger. Ouais. Et puis, c'est des animaux, clairement, c'est des animaux. Animaux de compagnie, je rigole un peu en le lisant, mais il y a vraiment des animaux, ça ne mange pas n'importe quoi. Donc dans le lombricomposteur, c'est génial, ça va recycler une partie des déchets ménagers, mais on ne pourra pas y mettre d'oignons, on ne pourra pas y mettre de poireaux. Toute la famille des aliacées qui contiennent du soufre, ils n'aiment pas trop. Le chou, bon, ils aiment bien, mais ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Et comme quand on a un animal de compagnie, bon, on va essayer de lui choisir les ingrédients qu'il préfère. Les épluchures de cucurbitacées, concombres, melons, ça ils adorent. Donc c'est assez intéressant. Et encore une fois, ça produit une matière qui est très intéressante pour les plantes.
Alors, à chacun de choisir hein, sa méthode de compostage. De toute façon, hein, vous n'avez pas le choix, je vous le rappelle, à partir du 1er janvier 2024, il faudra bien trouver une solution de compostage. Sinon, eh bien, vous allez payer pour, on va dire, le recyclage de ces déchets ménagers. Voyons voir maintenant, Rémi, on a commencé déjà un peu à dire qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compost, on va dire, un peu plus classique, hein, en tas qu'on a au fond du jardin. Qu'est-ce qu'on, surtout, on ne doit pas y mettre? Parce que, on va commencer dans ce sens-là pour voir déjà ce qu'on ne doit pas mettre dans un compost. Et là, plusieurs écoles, certains te disent, faut pas mettre de viande, faut pas mettre de poisson, parce que ça attire des animaux sauvages. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, moi, je suis d'une autre école, du coup, parce que moi, j'y mets tout dedans. Là, dans ce que tu viens de citer, moi, je mets tout dans le compost. Alors, on va pouvoir détailler de quelle façon on le met. Mais dans qu'est-ce qu'on n'y met pas? Et là, les auditeurs vont se dire, mais bien sûr, on met pas de plastique, on met pas de métal, on ne met pas de tout ce qui n'est pas organique. Par contre, à partir du moment où c'est une matière organique qui peut se décomposer, ben on le met. Alors le bois, peut-être ça sera très long à se décomposer, on va le garder pour le feu, ou on va faire un tas de bois au fond du jardin, c'est génial pour la biodiversité. Ou alors, à la limite, si c'est des copeaux de bois, pourquoi pas. Après, on va peut-être pas forcément aller utiliser de l'énergie pour fragmenter le bois, on va le laisser au fond du jardin, ça finira par se décomposer, et ça attire la biodiversité, c'est top. Mais la viande, ben c'est la matière organique. C'est moi la question que je poserais derrière, c'est ok, si tu le mets pas dans le compost, tu le mets où? Tu mets ça dans ta poubelle? Ta poubelle, elle va puer la mort. C'est pas ça qu'on veut. Ou elle va attirer les chiens ou les animaux qui vont te défoncer ta poubelle pour récupérer ce bout de viande. Donc ça va au compost. Après, si t'as un jardin, si t'as une partie, une zone un peu sauvage, va plutôt le jeter au fond du jardin et t'as un animal qui va le manger. Si t'as un chien, tu le donnes au chien. Mais en aucun cas, tu mets ça dans la poubelle. Enfin, là, si c'est organique, ça va pas dans la poubelle. Qu'est-ce qu'on y met pas encore? Je sais plus, qu'est-ce que tu citais?
Ouais, je parlais de viande, de poisson.
Alors, la viande, comme ça, poisson, voilà. Ouais. Bah, si c'est l'animal est consommable par un animal, on donne aux animaux ou on jette. Si on peut pas, on met ça dans le compost. Moi, je mets ça dans mon seau de compost, je jette ça sur mon tas. Je sais très bien que ça va pas se décomposer. Il y a un animal qui va venir le récupérer dans mon tas de compost. Ben, tant mieux, il faut que ça retourne à la nature, ça va pas à la poubelle. Un autre truc qui paraît qu'il faut pas mettre, les agrumes. Alors, ça risque pas de forcément trop puer dans la poubelle, encore que, mais de toute façon, c'est de la matière organique, on ne met pas ça dans la poubelle, on met ça au compost. Là, ce que vont dire les gens, c'est que oui, moi je mets ça au compost, et ça se décompose pas, il y a plein d'essence dans la peau d'agrumes, peau de citron, peau d'orange, ça se décompose pas trop vite. Moi, ce que je fais, c'est, je fais mon tas de compost, là, comme je l'ai expliqué juste avant. Une fois que le compost il est prêt, je l'utilise au jardin. Et si à ce stade-là, la peau d'orange elle n'est pas encore décomposée, ben je la prends et je la rejette dans un nouveau tas de compost et elle va finir par se décomposer à un moment ou à un autre. Ça va finir par se décomposer. Voilà. Ça met pas forcément plus de temps, mais ça peut prendre du temps. Et si il arrive un moment, parce que ça c'est une autre question qui revient, c'est si au bout d'un moment, à force de le rejeter dans le tas de compost, on va se retrouver avec que des peaux d'orange. Là, la question elle est autre, c'est tu manges trop d'orange. Tu manges trop d'orange, c'est pas un fruit local et t'es pas censé avoir trop de peau d'orange dans ton compost. Il y en a trop. Peut-être revois ton alimentation, mais là c'est un autre domaine.
Les déchets des toilettes sèches.
Alors, pareil, c'est la matière organique, ça finit par se décomposer. On met pas les déchets de toilettes sèches à la poubelle, ça c'est pas sûr. La question. Ah ouais. Par contre, on va les mettre à part, on va pas les mettre dans le tas de compost qu'on va utiliser pour le jardin, on va faire un tas à part. Et là, il y a plusieurs recommandations qui viennent du fait que dans nos déjections, il y a des risques potentiels. On n'en a plus beaucoup aujourd'hui parce qu'on a une bonne hygiène et que ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait nos besoins dans de l'eau potable qui partent dans des stations d'épuration. Mais à récupérer nos déjections, il y aurait un risque de pathogènes, de parasites, les douves du foie et tous ces problèmes qu'on a eus il y a quelques temps, plutôt au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on n'en a plus trop. Mais il y a toujours un risque si on réutilise trop ces matières-là. Donc, on fait un tas de compost à part. Et ce compost-là, on va le garder soit pour mettre dans les bois, dans la forêt, soit au pied des arbres fruitiers. Mais en aucun cas, dans une zone potagère dans laquelle on va consommer des produits qui vont toucher le sol. On va pas manger quelque chose qui a touché nos excréments. On va pas faire de carottes, de radis, de navets, de betteraves. Par contre, pourquoi pas de la tomate, hein. Tant que la tomate ne touche pas le sol, il n'y a aucun risque. Certains vont vous dire faire du compostage à chaud, c'est mieux. Faire un compostage laisser composter pendant 2-3 ans, c'est très très bien. Cela dit, moi, ce que j'ai toujours en tête, c'est le risque zéro, il n'existe pas. Donc, à aucun moment, je vais consommer des produits qui ont touché mes excréments, même si ça fait 3 ans que ça décompose. C'est juste un réflexe de base à avoir. Donc, au pied des arbres fruitiers, au pied des petits fruits, des plantes à fruits aériens, mais juste pas dans le potager et pas dans des zones où on va cultiver des légumes qui touchent le sol.
Alors, quelques détracteurs, et on terminera par cela, trouvent que, quels que soient les bienfaits du compostage, il se trouve, selon eux, que tout de même, faire un compost, c'est polluant, ça pollue de faire ça. Donc, rapidement, Rémi, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, c'est quelque chose que j'ai souvent dit aussi. Ben, alors déjà, comme je disais, quand on fait un gros tas de compost qui va faire 1,50 m ou plus de haut, une fois que ça a fini de se décomposer, le tas, il a baissé de 50-70 cm, donc... Il y a forcément une matière qui s'est perdue à un moment ou un autre, quelque part. Il y a des gaz qui s'évaporent, qui se perdent dans l'atmosphère, notamment des gaz genre méthane qui contiennent de l'azote et qui sont des gaz à effet de serre. Alors, je dis ça, faut pas exagérer, c'est pas à cause de gens qui font du compost qu'on pollue, que le réchauffement climatique, il vient pas de ça. Mmh. Moi, ce que je me dis, c'est, ok, il vient pas de ça, mais s'il est perdu, autant faire d'une autre manière pour que ça se perde pas. Ensuite, il y a des pertes par lessivage. Il y a des liquides qui vont s'écouler, des matières qui sont nutritives, des matières minérales qui sont nutritives pour les plantes et qui sont consommées par les plantes et qui sont consommées uniquement par les plantes. Il y a aucun autre être vivant qui consomme ça, c'est les végétaux qui les consomment. Si on fait un tas de compost qui n'est pas sur une dalle béton pour récupérer ses jus et qui n'est pas, qui n'y a pas d'arbres autour avec leurs racines en dessous et qui se fait à une période où les plantes même ne récupèrent pas ces éléments fertilisants, ça descend jusqu'à la nappe phréatique et c'est un petit peu polluant. Encore une fois, c'est pas la fin du monde, c'est pas ça le pire. Mais cela dit, c'est perdu, donc autant faire d'une autre manière pour pas que ça se perde. Donc soit sur une dalle béton ou sur du plastique, c'est pas évident parce que le plastique il va pas survivre longtemps puisque à la fourche quand on va récupérer son compost, on va le percer. Mais voilà, sur une dalle pour récupérer les jus d'écoulement qui sont nutritifs aussi, qui sont intéressants à récupérer. Ou alors, une fois qu'on a plus besoin de faire du compost, le compostage de surface, c'est idéal.
Le compostage, mesdames et messieurs, qui entre en vigueur obligatoirement à partir du 1er janvier 2024. On fêtera le passage à la nouvelle année avec cette réforme sur le recyclage des déchets. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même là pour l'environnement et on va dire la transition écologique d'avoir cela. On peut voir ça un peu comme une avancée. Donc les composteurs vont fleurir un peu partout autour de nous, que vous soyez en appartement ou en maison individuelle.
Je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait plus tôt.
Ah ben écoute, piano.
piano. Non, mais je trouve ça quand même aberrant. On pèle un légume quand on fait la cuisine et puis on met le déchet dans la poubelle. Ben, ça n'a rien à faire là, quoi. Même si on n'a pas de jardin, on fait dans un seau, on l'offre au voisin ou on met dans un seau, on va le mettre dans un composteur collectif. Si on est. Enfin, mettre un déchet organique dans la poubelle.
De plus en plus, quand même, on commence à reconnaître la richesse qu'il y a dans les déchets. Et malheureusement, ça reste un business, tu le sais bien.
Mais je crois que ça pourrait devenir un business dans l'autre sens, où on pourrait utiliser tout ça pour nourrir l'agriculture. Pareil, les toilettes à eau potable, pourquoi pas récupérer les déjections des humains qui sont hyper nutritifs pour nourrir les zones agricoles, parce que c'est quand même hyper nutritif. Il y aurait moyen de faire avancer un peu les choses.
Rémi, président.
Conseiller, si tu veux, mais déjà, président,
déjà,
non.
Déjà. On peut aller le rencontrer.
J'ai essayé la politique un petit peu. Non.
Tu es revenu aux plantes. Elles sont plus fidèles.
Je préfère.
Et plus honnêtes. C'est au Jardin des Merveilles de Vaux qu'on retrouve Rémi Kulik et sur CFM Radio tous les jeudis dans Plantes et Histoires de Plantes que vous retrouvez en podcast sur notre site internet cfmradio.fr. Et si vous voulez voir sa bouille, rendez-vous sur sa chaîne YouTube où il vous raconte plein de choses en lien, mais toujours avec les plantes et l'environnement. Allez Rémi, merci, à la semaine prochaine.
Avec plaisir, à bientôt.
Suite du magazine avec un focus sur la 11e édition de la Biennale des Verriers à Carmaux ce week-end de vendredi à dimanche. Ce vendredi, c'est gratuit pour tous les publics. Samedi et dimanche, cela coûte 2 € pour les adultes et c'est gratuit pour les moins de 12 ans tout au long de ce salon. On écoute Maud Lubeck, le parapluie, avant de faire connaissance avec Marie Flambard, l'une des artistes invitées sur cette Biennale des Verriers.
La pluie coule dans mon Je cours vers notre rendez-vous. Le soleil dort en plein mois d'août. Mais après tout, nous on s'en fout. Je me glisse sous ton parapluie. Tu passes ta main par ici. Et tout au creux de mon épaule, nos peaux se frôlent. Se dire un peu transi. chance, ce matin gris, au fond je remercie la pluie. On reste sous ton parapluie, tu passes ta main par là par ici, et tout au creux de mon épaule, nos peaux se frôlent.
Le verre contemporain dans tous ses états, c'est à Carmo ce week-end pour la 11e édition de la Biennale des Verriers, avec une cinquantaine d'exposants divers dans leurs approches et techniques de fabrication. Marie Flambard, qui est une souffleuse de verre, est représentative de la diversité à la fois artistique et artisanale proposée sur ce salon.
Parure, bijoux, sculpture, en passant par la décoration. Et je travaille différentes techniques verrières, donc ça va du chalumeau, en passant par la pâte de verre et par le sablage également. C'est très varié et les résultats sont aussi très très variés les uns et les autres, mais le cœur de tout ça, c'est vraiment la nature.
L'attrait pour la nature qui vous guide, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre processus de travail? Ça passe par quoi? Des photos d'abord ou simplement une observation?
Plutôt l'observation en fait, je vais vraiment m'inspirer de mes promenades, des choses qui m'ont... captivée, qui m'ont vraiment accrochée. Et ensuite, je vais dessiner énormément avant de commencer à créer en verre. Enfin, vraiment, il y a la phase du dessin est quelque chose de très important. Et ensuite, je vais commencer à travailler la matière pour donner vie un peu à toutes ces formes que vous allez bientôt découvrir.
À quoi ressemble votre atelier ?
L'atelier est très grand parce qu'en fait, je le partage avec mon compagnon qui est ferronnier d'art. Et donc, on a un gigantesque atelier, parce que lui, il travaille plutôt très, très grand, et moi, je travaille tout petit. Donc, j'ai un atelier que j'appelle l'atelier propre, dans lequel, vraiment, ça va être la partie plutôt bijouterie. Ensuite, il y a la partie chalumeau, qui est à l'extérieur. Et après, il y a l'atelier salle, où là, c'est plutôt la partie pâte de verre.
La Biennale des Verriers de Carmo, le premier salon dédié au verre contemporain en France, c'est de vendredi à dimanche avec plusieurs espaces, expositions, ventes, démonstrations, initiations, recyclage et des stands d'information sur les formations aux métiers d'art.
CFM, coup de projecteur.
Le Mac du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Tout de suite, les informations sur CFM Radio.